On parle beaucoup en ce moment de décroissance. Certains sont effectivement adeptes de la décroissance, c'est-à-dire vivre autrement avec moins de développement économique peut-être, moins de gâchis, pourquoi pas. Mais la décroissance n'est pas forcément quelque chose de volontaire, ça peut être aussi subi un peu à l'instar de ce que pourrait être le déclin, notamment pour une ville. On va interroger sur ce thème de la décroissance urbaine et aussi de l'attractivité résidentielle une personne qui est chercheur, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, et qui est donc rattachée à un laboratoire, l'UMR 8134, et qui a étudié donc le cas de trois villes de tradition industrielle, Mulhouse, Roubaix, Saint-Étienne. Johan Millau, bonjour.
Bonjour.
Donc, au départ, cette recherche, cette thèse sur ce thème, elle a été faite par vous, mais dans quelles circonstances?
Alors, cette thèse a été financée dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, un financement CIFRE, entre mon laboratoire où j'ai effectué mon doctorat, le laboratoire TVES de Lille, donc Territoire, Ville, Environnement et Société, et la ville de Roubaix. Donc, qui a financé mon doctorat via ce dispositif et qui donc m'a amené à travailler 75% de mon temps au sein de la collectivité et 25% de mon temps au sein du laboratoire où donc j'ai effectué cette recherche. Et au sein de la collectivité, j'exerçais les fonctions de chargé de mission Habitat, notamment sur la création d'un observatoire local de l'habitat ancien.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une commande de la ville de Roubaix?
Alors, ça n'est pas une commande de la ville de Roubaix. Par contre, il y avait bien des éléments d'intérêt commun sur cette dimension-là. Et notamment, la ville de Roubaix donc avait mené une politique de renouvellement de ses quartiers anciens depuis le milieu des années 90 et donc était intéressée à mener une démarche d'observation et d'évaluation de ces politiques publiques. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis inséré et que j'ai réalisé cette thèse.
Mulhouse, Saint-Étienne, Roubaix, qu'est-ce qu'ont en commun ces villes?
Alors, au départ, puisque la thèse s'est constituée au départ en choisissant des terrains et une thématique commune, ces villes en fait présentaient depuis 1968 des signes d'affaiblissement économique, sociaux et démographiques concomitants, c'est-à-dire que les trois villes ont perdu des habitants de manière quasi ininterrompue depuis 1968. Saint-Étienne est le cas le plus emblématique puisqu'elle a perdu 50 000 habitants depuis 1968. Elles présentent un très fort déclin de l'emploi industriel, où leur fonction industrielle a été quasiment divisée par deux ou par trois, et elles présentent donc des signes d'une forte crise sociale touchant spécifiquement les catégories ouvrières et plus généralement les catégories populaires, avec un taux de chômage d'environ 25% pour ces catégories de population.
À partir de quel moment on peut dire qu'une ville est en décroissance?
Alors justement, c'était toute l'idée de cette thèse, c'était de réfléchir au fait qu'on parle de crise. On parle de crise dans ces territoires depuis une longue période, depuis les premiers signes d'effondrement industriel de ces territoires. Et l'idée de la décroissance est de dire on n'est plus dans un caractère cyclique de déclin ou un caractère cyclique lié à la crise, mais on est bien face à une bifurcation. Quelque chose de durable, une rupture dans l'organisation des territoires qui va affaiblir le territoire d'un point de vue économique, social et démographique. C'est bien cette inscription dans le temps et dans le fait que le retour à la croissance, le retour à un avenir peut-être plus radieux, semble s'éloigner de plus en plus pour ces territoires.
Il y a beaucoup de villes où, en France, le déclin est prouvé, démontré.
Alors justement, c'était un peu l'intérêt aussi de cette thèse, c'est que cette thématique est très fortement étudiée à l'étranger, et plus particulièrement en Allemagne, qui est le pays le plus avancé sur cette thématique, et sinon aux États-Unis, avec le cas emblématique de la ville de Détroit, alors qu'en France, les recherches soulignaient que le processus de déclin urbain était quelque chose de silencieux, notamment en raison de la démographie plutôt solide de la France, un fort taux de natalité, qui venait en fait atténuer cet aspect spécifique du déclin, qui était le déclin démographique. Et donc l'intérêt de la thèse était de voir dans quelle mesure on pouvait malgré tout parler de déclin, de décroissance urbaine dans ces territoires, même si le facteur démographique n'était pas le plus prépondérant.
On peut parler plutôt de décroissance ou de déclin économique.
Exactement. L'idée que j'ai défendue dans cette thèse, c'était de réfléchir à l'idée que la désindustrialisation et l'effondrement économique de ces territoires étaient le facteur principal expliquant le processus de décroissance urbaine. Que c'est bien d'abord une transformation économique lié à ce processus de désindustrialisation qui tendait à expliquer l'ensemble du processus systémique de décroissance urbaine.
Pour autant, certains considèrent que la jeunesse de notre population, notamment celle de Roubaix, c'est un facteur important et qui peut amener à une recroissance.
Alors, en fait, c'est justement donc un élément de débat. Effectivement, la ville de Roubaix est particulièrement jeune, mais pour autant, donc la ville de Roubaix n'a connu aucune période de croissance démographique depuis 1968. Son déclin est relativement atténué, notamment parce qu'elle possède un très fort solde naturel qui vient cacher un très important solde migratoire négatif. Inscrit dans la durée. C'est une des villes françaises qui possède un des soldes migratoires les plus négatifs de France, c'est-à-dire que les gens partent de la ville, notamment d'abord au sein de la communauté urbaine de Lille, mais aussi vers d'autres régions qui présentent une économie plus solide.
Quelles sont les classes de population qui émigrent de la ville ?
Alors justement, ça c'est un des éléments contre-intuitifs. Donc à travers une analyse fine des mobilités résidentielles fondée sur le recensement général de la population, j'ai pu me rendre compte que contre toute attente, la part des catégories populaires quittant la ville de Roubaix était importante et même plus nombreuse en valeur absolue que ce qu'on a tendance à dire l'émigration des classes moyennes, et qu'en fait une part très importante des populations populaires tendaient à partir de Roubaix, que ce soit au sein de la communauté urbaine de Lille, pour accéder à la propriété, mais aussi vers d'autres régions plus dynamiques économiquement, notamment l'Île-de-France ou Rhône-Alpes.
Elles sont en recherche d'emploi souvent ?
Pour les mobilités résidentielles au sein de la métropole lilloise, dans le cas de Roubaix, ce sont des catégories populaires en emploi, des familles qui, en fait, dont les deux membres du ménage travaillent et qui donc partent accéder à la propriété dans les franges périurbaines du bassin d'habitat roubaisien, des communes comme Aime, Lisle-et-Lannoy, Lers, ou encore vers la ville de Tourcoing, qui est la première destination de départ des catégories populaires accédant à la propriété depuis Roubaix. Et pour les mobilités en dehors du bassin d'habitat métropolitain, effectivement, les catégories populaires apparaissent comme plus fortement en recherche d'emploi que pour le reste de la population.
Alors effectivement, Roubaix, c'est une ville, mais qui est dans une agglomération qui est assez large. Est-ce qu'on peut faire la distinction entre Roubaix intramuros et son environnement ?
Alors, l'idée, c'est bien d'analyser la méthodologie qui a été mise en place, c'est d'analyser à chaque fois une ville de tradition industrielle, Mulhouse, Roubaix ou Saint-Étienne, dans son environnement, donc c'est-à-dire dans son agglomération, étant entendu le périmètre des intercommunalités, et d'analyser les trajectoires des intercommunalités au regard de l'ensemble des autres aires urbaines françaises de plus de 200 000 habitants. Et la métropole lilloise, contre là aussi le discours traditionnel qu'on a l'habitude d'entendre, présente des signes d'affaiblissement économique structurel inscrits dans la durée, c'est-à-dire que malgré certains signes de tertiarisation, dont Euralil est l'emblème ou Euratechnologie, le tissu économique métropolitain de la métropole lilloise demeure très largement en retrait par rapport aux grandes aires urbaines françaises, notamment sur des fonctions économiques stratégiques telles que le service rendu aux entreprises ou les fonctions métropolitaines supérieures.
Alors, si des gens quittent certaines villes qui ont été très peuplées, d'autres en bénéficient, d'autres régions en
Oui.
bénéficient, c'est un équilibre. Est-ce qu'on a un intérêt à développer des villes et à les rendre, j'allais dire, très denses en termes de population?
Alors, la question des projets urbains et la question de la redensification de ces tissus, elle doit s'analyser selon plusieurs caractéristiques. D'abord, le fait que la périurbanisation est un modèle qui est peu durable en termes environnementaux et que, à l'inverse, les villes et la densité offerte, la capacité à aussi offrir des services plus diversifiés et plus importants, est considérée comme meilleure d'un point de vue environnemental. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut considérer qu'on a une nécessité à renouveler, à redévelopper ces territoires. En revanche, ce qu'a pu mettre en exergue cette thèse en analysant les politiques d'attractivité résidentielle de ces territoires, c'est qu'il y a une décorrélation entre des politiques urbaines de redéveloppement de l'habitat, de développement du cadre de vie, d'amélioration du cadre de vie et des politiques de développement économique. Alors que l'analyse des mobilités résidentielles et du processus de décroissance urbaine montre qu'en fait il y a une étroite corrélation entre dynamisme économique et développement urbain. Et que on ne peut pas dissocier spécifiquement d'un côté un développement qui serait fondé sur la qualité de vie et d'un développement qui serait plus productif, fondé sur l'industrie, fondé sur les services rendus aux entreprises, etc.
Donc, je suppose qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui indiquent justement une décroissance. Moi, j'ai fait un petit tour du côté du centre de Roubaix et il se trouve que les agences de location fonctionnent plutôt bien pour le centre-ville.
Alors, en effet, sur Roubaix, il y a des signes de redéveloppement très nets, notamment dans le centre-ville, où les politiques qui ont été menées depuis le milieu des années 90 ont produit des effets urbains marquants, et le centre-ville lui-même a regagné des habitants, mais les nouveaux habitants roubaisiens ne sont que de passage. Il y a un très fort turnover dans les logements où les gens viennent soit faire une primo-accession à la propriété pour ensuite repartir vivre dans les franges périurbaines ou encore ce sont une première location dans le parc locatif privé mais sans forcément s'ancrer sur le territoire. Et il faut bien imaginer que les villes françaises et globalement ces villes décroissantes sont des villes marquées très fortement par la mobilité résidentielle. Les populations sont très mobiles, résidentiellement.
Donc, dans votre thèse, Johan Mio, quelles sont les solutions que vous préconisez?
Alors, la thèse ne préconise pas forcément de solution, puisque donc c'était certes une recherche embarquée, une recherche partant de questionnements opérationnels et professionnels liés à ce positionnement en chiffres, mais pour autant, il est particulièrement difficile de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre. La seule chose que l'on peut voir, c'est que la décorrélation entre politique de l'emploi, politique de développement économique et politique de l'habitat, politique du développement urbain pose problème et met en échec les politiques qui sont exclusivement centrées sur le renouvellement urbain et l'amélioration du cadre de vie. Et que une préconisation peut-être serait de remettre la question des politiques de développement économique et de l'emploi au cœur des agendas urbains plutôt que simplement des questions de renouvellement urbain ou d'amélioration du cadre de vie.
Donc là, vous avez parlé des politiques, on peut peut-être parler du politique, voire des hommes politiques, enfin des hommes ou des femmes politiques de cette région. En quoi la question de l'attractivité des villes est prise en compte, voire mise en avant dans le cadre des politiques ou des orientations des partis politiques?
Alors, la question de l'attractivité, en fait, est une nouvelle catégorie d'action publique qui est apparue depuis le milieu des années 90, étroitement liée aux transformations du système productif. Hein, la thématique de l'attractivité est relativement nouvelle. Donc les politiques s'en sont saisies, et notamment la question de l'attractivité résidentielle. Ce terme-là est vraiment très fort dans l'ensemble des documents de politique publique dont on peut avoir accès. Il y a un discours très net orienté en faveur de l'attractivité. Et donc les solutions qui sont mises en œuvre, donc c'est bien de capter de nouvelles populations. Qui sont considérés comme socialement plus favorisés, à la fois pour créer de la mixité sociale, mais aussi pour améliorer les bases fiscales des territoires. Donc il y a une orientation comme ça qui est très nette dans l'ensemble des territoires français, et plus particulièrement dans ces villes qui présentent des signes de crise structurelle.
Alors si on prend le cas de Roubaix, on peut dire que la politique culturelle de Roubaix est un poste important dans le budget, et c'est vraiment une orientation prononcée de cette ville. Est-ce qu'on retrouve cette mise en avant du culturel pour attirer, pour rendre donc attractive la ville? On retrouve ce même phénomène à Mulhouse et à Saint-Étienne.
Alors tout à fait, le levier culturel, c'est un des leviers utilisés par les collectivités en matière d'attractivité résidentielle pour reconstruire l'image de leur territoire. À Saint-Étienne, par exemple, il y a tout un travail sur une labellisation design, puisque la ville a été classée par l'UNESCO comme une des capitales du design dans le monde. À Mulhouse, il y a eu une forte politique de développement des infrastructures culturelles assez similaire à celle de Roubaix, développement d'un nouveau théâtre qui s'appelle La Filature, qui peut se ressembler en quelque sorte à la condition publique. Donc les infrastructures culturelles sont un des outils des politiques d'attractivité résidentielle. Elles pèsent fortement sur le budget. Elles sont à destination de catégories sociales supérieures comme un moyen de les attirer sur ce territoire. Cependant, les politiques d'attractivité résidentielle sont face à un paradoxe. Le paradoxe est le suivant, c'est ça amène les politiques à faire beaucoup pour attirer une classe sociale minoritaire et aisée, alors que des besoins sociaux existants demeurent, voire explosent. Et donc, les politiques d'attractivité résidentielle, elles sont vraiment construites sur ce paradoxe. Et elles peuvent amener parfois donc à faire vraiment des investissements lourds en termes urbains qui vont peser sur des budgets d'investissement et de fonctionnement pour attirer cette population-là, alors que, par exemple, Roubaix demeure une des villes françaises, une des capitales françaises de l'habitat insalubre.
Non. Est-ce que ce qu'on appelle la, entre guillemets, politique de la ville, ce sont des financements qui interviennent en plus sur les quartiers qui permettent de compenser justement cette priorité biculturelle?
Alors en fait, ce qui est très intéressant dans les trois cas, c'est que la politique de la ville a été, les crédits de la politique de la ville ont été utilisés pour mettre en œuvre ces projets. Peut-être pas directement pour les infrastructures culturelles, mais l'investissement très net dans l'amélioration du cadre de vie, le développement d'offres de logements à destination de ces classes moyennes ont été très nettement financés par les crédits de la politique de la ville, et ce qui pose aussi question de l'orientation de cette politique nationale de correction des inégalités sociales et territoriales.
Parallèlement, l'Europe a investi dans la région pour la remise en état des territoires industriels abandonnés, les friches, etc. Est-ce qu'on sent les effets de ce financement?
Alors, le financement européen a servi surtout à remettre à nu les friches industrielles, à dépolluer et à financer la création de certains équipements culturels. Pour autant, les effets en termes de développement économique sont très difficilement mesurables. Je prendrai le cas de Saint-Étienne, où donc la Cité du Design a reçu un fort financement européen, alors que les impacts en termes d'emploi de ce vaste équipement culturel et qui a pour vocation de renouveler le tissu industriel productif stéphanois demeure très difficile à mesurer parce que on doit être sur quelque chose de l'ordre de 250 emplois directs liés au design.
Donc maintenant que cette thèse est présentée, Johan Millot, quel est l'avenir de ce travail et parallèlement le vôtre?
Alors pour ma part, donc cette thèse va tenter d'être publiée. Donc actuellement, je suis à la recherche d'endroits où pouvoir la publier. Pour le moment, je fais toujours partie d'un réseau de recherche international qui s'appelle le Shrinking Cities International Research Network, qui travaille donc à l'échelle internationale avec des chercheurs de Corée, d'Australie, du Royaume-Uni, d'Allemagne, des États-Unis, pour travailler sur cette thématique de la décroissance urbaine. Et pour ma part, les champs sur lesquels j'aimerais beaucoup m'intéresser, c'est savoir comment on fait de... On voit bien que les politiques de retour à la croissance produisent des effets insatisfaisants. Dans quelle mesure une acceptation du processus de décroissance est possible, et dans quelle mesure nos modes de pensée, nos outils peuvent répondre à ce défi de la décroissance, ou en tout cas d'un avenir d'une société sans croissance. Donc c'est un des défis sur lequel j'aimerais beaucoup travailler, et l'autre, c'est de travailler sur par une entrée par les organisations, par les acteurs, et de voir comment certains acteurs urbains, comme les bailleurs sociaux, comme les porteurs d'infrastructures, font face à ce processus de décroissance urbaine, puisque dans certaines villes décroissantes, par exemple, les bailleurs sociaux font face à des taux de vacances de près de 20% de logements, et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça renouvelle comme modèle d'organisation, cette question de la décroissance.
Bien voilà, beaucoup de questions encore en suspens. On espère que vous aurez l'occasion de développer tous ces beaux projets. Un contact, Yohann Miu?
Alors oui, vous pouvez me contacter donc sur mon adresse mail qui est donc Yohann, Yohann, point Miu, Miot, arrobas, u-pem.fr.
Merci beaucoup.